Chaque samedi à 8h30, Radio Sapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Sapi pour anticiper les mauvaises surprises et profiter de bonnes occasions.
Bien, comment faire face à l'humidité dans votre maison ou dans vos maisons? C'est le premier sujet qu'aborde Capi Service aujourd'hui avec Dessong Gandou, architecte. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on affirme que l'humidité, comme dans tant d'autres, est l'un de ces facteurs qui ont des répercussions sur notre santé. L'humidité envahit plusieurs maisons d'habitation, elle est responsable de plusieurs maux. Alors, comment lutter contre ce phénomène? D'abord, la première chose, c'est de savoir c'est quoi l'humidité des chongandos?
Ok, merci beaucoup. En termes très simples, l'humidité, c'est la présence de l'eau dans un milieu. Et qu'il s'agisse du bâtiment, c'est-à-dire c'est la présence de l'eau dans les parois du bâtiment, dans le plafond. On le remarque aussi sur les pavements. Et donc, pour ne pas prendre une décision, ou plutôt des définitions trop scientifiques, donc
c'est la présence d'eau
dans un milieu.
Et comment cette eau se retrouve là?
Ok, cette eau dans le bâtiment vient de plusieurs sources, mais je voudrais peut-être cet avant-midi parler des trois sources. Et elle vient du sol par le phénomène des remontées capillaires. Vous savez que l'eau a tendance à rejoindre la surface. Et de deux, elle vient de la pluie lorsque les couvertures ou plutôt le plafond sont mal faits. L'eau pénètre dans le bâtiment à travers la toiture. L'eau pénètre aussi dans le bâtiment lorsqu'il y a fuite de raccordement, c'est-à-dire adduction et évacuation, la tuyauterie donc qui est incorporée dans le bâtiment. Lorsqu'il y a fuite, l'eau pénètre et cause aussi l'humidité dans le bâtiment. Donc on peut étendre la liste, mais je voudrais qu'on s'attarde sur les trois sources de provenance aujourd'hui.
Oui, c'est une fois j'ai vu dans un immeuble, ce qui se trouvait au rez-de-chaussée, au-dessus, là, il y avait l'eau qui suintait, qui provenait de la tuyauterie des voisins du dessus, là, et il y avait le problème, et c'était vraiment horrible à voir.
Oui, vous allez le remarquer dans beaucoup d'immeubles, appartements à travers la ville. Ça, c'est la tuyauterie qui a commencé à suinter, la vie, et l'addiction, plutôt l'évacuation. Et que généralement, dans l'ancien système, ou plutôt dans les anciennes méthodes de construction, on avait tendance à incorporer la tuyauterie dans le mur, dans les colonnes. Mmh. Or, c'est des éléments qui ne sont pas à 100% solides, ils peuvent céder à un moment donné avec la pression du matériau de construction. Mmh. Et ça, c'est lorsque cette tuyauterie est encastrée dans le mur, il est difficile de savoir d'abord détecter le point de fuite et puis introduire le mécanisme dans l'entretien. Ça, c'est une des causes. Et généralement, comme l'entretien ne s'en suit pas tellement, vous remarquerez que l'eau commence à se pointer, à percer les dalles. Et les gens qui sont en étage supérieur font le problème. Là, ceux qui sont en étage inférieur, ainsi de suite, il y a des problèmes de syndic, généralement comme ça.
Oui, mais là, la plupart des bâtiments, là, ne sont pas bien entretenus. Hein.
C'est d'abord le problème d'entretien, et qui fait que... lorsque cet entretien manque et qu'avec le temps, il y a ce qui commence à se manifester, ça a des répercussions que je viens de parler. Avec les nouvelles technologies, on évite d'incorporer les tuyauteries et on peut recourir à des systèmes de gaines, c'est-à-dire un cloisonnement à travers lequel on fait passer toute la tuyauterie, que ce soit les eaux qui montent ou les eaux qu'on est en train d'évacuer. Mmh. Et cette gaine a des trous à travers lesquels on peut aussi entrer et vérifier en cas de fuite, par exemple. Ça est littéré une situation de désagrément dont je venais de parler tout à l'heure.
Oui. Voilà, donc il y a trois sources, c'est que vous l'avez dit, d'humidité, le sol, la remontée capillaire, l'eau qui remonte. Alors par rapport à ça, c'est quoi? C'est que la maison a été construite sur un terrain marécageux?
Oui, la maison a été construite sur un terrain marécageux, mais il n'est pas exclu de construire sur un terrain marécageux. Le principe est simple, on peut construire partout, même dans l'eau. Mais il faut savoir bien s'y prendre. Donc, lorsqu'on construit sur un terrain marécagé, il faut prévoir des mécanismes, des couches, des tanchéités à des différentes étapes, à différentes régions de la construction. Mmh. Il y a ces couches de tanchéité, en termes simples, c'est même des sachets aussi. Parce que vous faites la fouille de la fondation dans la rigole avant de commencer les premières constructions, c'est-à-dire le béton de propriété, la maçonnerie en moellon qui vient, vous longez, ou plutôt les sachets. Et parce que le sachet, vous savez, il empêche pratiquement la remontée capillaire. Et puis après, vous pouvez couler les bétons étanches. Bétons étanches, c'est des bétons qui sont autres que le béton normal ici, mais auxquels on a ajouté la matière d'étanchéité, la poudre cicaille, il y a beaucoup de matériaux d'étanchéité.
Donc il faut beaucoup de sachets.
Il faut pas beaucoup de sachets, mais des sachets tels que ça empêche la filtration d'eau. Là, vous avez fait face au premier obstacle. Qui ne va pas permettre que l'eau puisse facilement remonter jusqu'au niveau de la fondation et plus loin jusqu'au niveau des murs. Et même lorsque vous avez fini la fondation et commencé l'élévation, dans la zone des sous-pavements où vous devez mettre le béton avant de pouvoir mettre le carrelage qu'on sort, vous pouvez aussi dans cette zone-là, lorsque vous mettez la dalle des sous-pavements, incorporer des poutres cicat. C'est des matériaux pour empêcher toujours, lutter contre la remontée capillaire.
Mmh.
Vous pouvez même aller plus loin lorsqu'on fait les crépissages de murs, des parois intérieures ou extérieures, dans les mortiers, incorporer aussi la poudre dans ces mortiers-là.
Mmh.
C'est toujours des procédés pour lutter contre l'humidité dans le bâtiment.
Alors, vous avez dit aussi, c'est les eaux des pluies qui sont mal canalisées, surtout à un certain moment, tout à fait, il y avait des maisons avec des toitures qu'on appelait cachées, des toitures cachées,
mm-hmm.
et ça favorisait beaucoup la présence de l'eau dans la maison.
Oui, à un moment donné, comme vous l'avez dit, tout le monde est géré que par la construction d'une maison à toiture cachée. Ce n'est pas mal de construire en toiture cachée, mais il faut prévoir des mécanismes d'entretien régulier.
Mm-hmm.
Vous savez, nous sommes dans une région tropicale où il pleut abondamment.
Surtout ces jours-ci, hein, depuis le début du mois, il pleut presque après chaque trois jours.
Après chaque trois jours, non seulement après chaque trois jours, mais nous avons des pluies qui prennent, qui commencent le matin jusqu'au soir.
Mmh.
Et lorsque vous avez des chenaux où les eaux ont débordé, que les chenaux ne sont pas bien dimensionnés, l'eau étant un élément corrosif très dangereux, il va chercher à se créer un chemin. Alors, ce chemin-là a tendance peut-être vers les maillons les plus faibles. Donc, il peut commencer à faire les retours dans les faux plafonds et puis ainsi de suite commencer à attaquer les murs. Ça, là aussi, il y a, comme je le disais tout à l'heure, on prévoit toujours des matières d'étanchéité pour faire face à cette situation-là.
Mmh.
Mais ça ne suffit pas. Lorsque vous avez prévu des matières d'étanchéité, il faut veiller à l'entretien régulièrement. Après 4-5 ans, renouveler ces matières-là parce que en contact avec le soleil, ça fait durcir, ça commence à se décoller aussi. Donc les bâtiments, c'est comme un être humain, ça naît, ça vit et puis ça meurt.
Mmh.
Alors pour donner longue vie à un bâtiment, il faut savoir l'entretenir. Donc c'est pratiquement ça aussi.
Voilà, vous avez des questions, des réactions, composez le 081-890-63-94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocafu.net. Nous parlons aujourd'hui de l'humidité dans nos maisons avec Deshong Gandou, architecte. Une autre question, quelles sont les conséquences de l'humidité?
Les conséquences de l'humidité, c'est-à-dire que vous avez d'abord la première conséquence, il n'y a pas un confort dans la maison.
Mmh.
Lorsqu'il manque les conforts, il y a beaucoup de maladies qui peuvent s'en suivre aussi. Et puis ça, c'est sur le plan humain, mais les bâtiments en soi, il est aussi corrodé au fur et à mesure. Parce que ces murs qui sont tout le temps imbibés d'eau, les matériaux sont attaqués par ces eaux et puis la corrosion vient au fur et à mesure.
Mmh.
Dans un bâtiment qui était appelé à vivre pendant 100 ans, il va vivre pendant 50, 60 ans et puis il commence à s'écrouler et puis il meurt. Donc la conséquence, c'est que la vie du bâtiment est écourtée par la présence de l'humidité dans les différentes parois.
Mmh. Voilà, donc, et ça peut, l'humidité peut causer aussi des maladies.
L'humidité cause aussi des maladies, les médecins le savent très bien. Vous savez, lorsque on vit dans un environnement où le volume d'air n'est pas suffisant, parce que aussi plus loin l'humidité, c'est quoi? C'est la masse d'eau dans l'air.
Mmh.
Alors, lorsque vous vivez dans un environnement où vous avez l'air qui est pollué par l'humidité, où il y a l'eau en permanence, c'est-à-dire que vous ne respirez pas l'oxygène normal. Et plus loin, vous allez attraper de maladies respiratoires qui ne vont peut-être pas se manifester tout de suite, mais par le simple fait d'avoir vécu longtemps dans un milieu où les conforts naturels n'étaient pas démises, ça doit sûrement avoir des répercussions sur l'organisme.
Alors, à présent, comment corriger, s'il y a l'humidité à la maison, comment corriger ce problème?
C'est simple, lorsque quelque chose est mal fait, il faut recommencer. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut casser toute la maison pour résoudre le problème d'humidité. Ça dépend de quel endroit se trouve l'humidité, ça dépend de quelle manière cette eau pénètre dans le bâtiment. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque cas, il y a un remède correspondant. Mm-hmm. Pour, par exemple, les cas de toiture mal faite, où il y a l'eau des pluies qui s'infiltre à travers le faux plafond, il faut carrément faire l'étanchéité. Mais veillez à ce que cette étanchéité soit entretenue régulièrement, après chaque 2-3 ans, même si le problème ne se manifeste pas encore, mais y penser, remonter là-dessus, voir si ça commence à se décaler ou à se décoller, et puis résoudre le problème, c'est-à-dire faire l'entretien. S'il s'agit par exemple des parois des murs qui sont attaquées par l'humidité, là il faut peut-être décaper tous les morceaux de crépissage intérieur et extérieur. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais cette fois-ci, refaire le crépissage avec les matières étanches qui sont appropriées.
Ouais, il semble qu'il existe aussi une peinture qui peut lutter contre l'humidité.
Oui, il existe aussi une peinture qui peut lutter contre l'humidité, mais avant d'appliquer cette peinture, il faut aussi d'abord enlever la première couche qui existe. Parce que lorsque vous venez avec la peinture appropriée pour lutter contre l'humidité, que vous mettez sur une couche qui est déjà humide, le problème n'est pas totalement résolu. Donc il faut d'abord décaper cette première couche, la soit de peinture, refaire avec le masticage avant d'appliquer la peinture appropriée. Donc, mais ça, c'est des solutions des cas de force majeure parce que le bâtiment est déjà là et que la situation se pose déjà. On ne sait pas tout casser pour refaire à zéro. Mmh. Et pour un bon départ, il faut veiller à ce que, lorsque vous construisez dans une région marécageuse, j'allais dire, prévoir à des différentes régions de la construction les couches d'étanchéité. Ainsi, vous aurez fait face au problème qui pourra se poser plus tard.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Karine Galimbaya reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir. dédicace@radiocapi.net.
Comment faire face à l'humidité dans nos maisons? Desson Gandou, architecte, est notre invité ce matin. Mike Mwamba nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Mike.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Mike?
Ma question est celle-ci. D'abord, je suis professeur Mike Mwamba, je suis d'une école de la France, c'est à Lubumbashi.
Oui.
Je veux un peu savoir si la cité soit un peu écrire. C'est pour ça que les gens ont l'habitude de construire la maison autour et de planter des arbres à côté. Pour dire que quand il y a le vent, la peinture ne s'emporte pas. Bon, maintenant quand on voit ça, c'est pour ça qu'il y a de l'humidité en dessous des arbres qui créent même des couleurs vertes autour du mur qui est proche de l'arbre, tout ça, tout ça. Qui retient de l'eau parfois. C'est parce que le monsieur qui est sur le plateau
concerne que nous avons aussi
de cette façon.
Ok, c'est une évidence que lorsque la bâtisse est entourée de arbres, ça amortit la vitesse du vent et par conséquent, ça protège aussi la couverture. Mais ces arbres, je ne pense pas qu'ils sont côte à côte avec le bâtiment. C'est à une certaine distance parce que s'ils étaient côte à côte avec les bâtiments, les racines attaquerait un jour la fondation et créerait beaucoup de fissures. C'est à une certaine distance que la plantation des arbres est recommandée. C'est peut-être, vous faites allusion aux fleurs roses qui embellissent les contours des murs extérieurs du bâtiment. Là, il n'y a pas de problème. Les fleurs, les roses n'ont pas tellement des racines profondes qui peuvent causer du tort au bâtiment. Et la verdure auquel vous faites allusion, c'est c'est généralement peut-être les feuilles mortes, les branches qui tombent et qui ne sont pas tout de suite là ramassées. Mais là, je ne pense pas que ça soit une cause d'humidité externe dans le bâtiment. Parce que prenons les cas où il pleut abondamment. La pluie, même si nous avons le débordement des toitures, il y a quand même certaines pluies qui ont une inclinaison très forte qui arrive à attaquer la partie inférieure du bâtiment. Vous n'allez pas me dire que les attaques fréquentes des bâtiments à ces niveaux-là vont plus tard causer l'humidité dans le bâtiment, parce qu'après la pluie, il y a les beaux temps, il y a le soleil qui vient, les rayons soleil, la solaire plutôt assèche facilement aussi les parois extérieures. Là n'est pas tellement le problème qui peut causer l'humidité dans le bâtiment. C'est vraiment pas une cause.
Oui, mais vous voyez parfois des taches verdâtres qui apparaissent au niveau des murs, des certaines maisons. Tout ça, c'est des humidités.
Oui, s'il y a des taches verdâtres,
c'est manifeste comme ça.
Oui, s'il y a des taches verdâtres, ce n'est pas à cause de fleurs qui sont tout autour de la maison. C'est que le problème est endogène, il commence par le fond, sûrement dans une région marécageuse ou semi-marécageuse, et qu'on a commencé la construction sans faire allusion aux orientations auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. Et quand on remarque la présence de fleurs tout autour, on s'est dit non, c'est à cause peut-être de ces fleurs, à cause de ces arbres que nous avons l'humidité. Non, là, il n'est pas tellement question.
Bon, peut-être que ces arbres, les rayons solaires ne pénètrent pas tous les jours, difficilement peut-être, ça peut créer de l'humidité. Non.
Bon, il y a aussi des cas où lorsqu'il n'y a pas pénétration permanente des rayons solaires, c'est-à-dire que la région reste humide pendant longtemps et puis ça peut commencer à être intérieur. Là, généralement, vous trouvez deux murs de construction côte à côte. Vous trouvez les gens qui ont tendance à récupérer les espaces lorsque vous avez un mur de clôture et que vous ne savez pas laisser la distance entre le mur clôture avec le mur de la maison qui commence. Mmh. Vous collez la maison au mur de clôture.
Des clôtures, oui.
Et ces vides-là restent, échappent à tout contrôle, échappent à la pénétration des rayons solaires. Et là aussi, c'est une des raisons lointaines de l'humidité dans le bâtiment, oui. Donc l'eau peut s'infiltrer à cet endroit-là au fur et à mesure et puis commencer à attaquer l'intérieur du bâtiment sans qu'on les veille.
Voilà. Rachidi nous appelle de Kalemi au Katanga. Bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à notre invité, bonjour à tous nos auditeurs.
On vous écoute, Rachidi.
Ok, merci. Moi, je vais un peu savoir, c'est une question, je vais un peu savoir, est-ce que... Bon, quel est... Je passe un peu l'endroit propice pour construire une maison, parce que si on regarde notre Congo ici, bon, c'est un Congo qui est vraiment inondé avec de l'eau partout, il y a des étangs, il y a des forêts, des rivières, c'est un peu compliqué, avec ces histoires là-bas, ça cause aussi de l'humidité. Je veux un peu savoir quel endroit propice qu'on peut trouver une bonne construction pour éviter cette humidité, c'est un peu ma préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est de savoir, bon, parfois à la radio Capi, on nous dit souvent, les conseils d'ouvrir les portes et les fenêtres pour aérer la maison. Je veux un peu savoir, est-ce qu'il y a différence entre cette histoire d'humidité et l'aération? Parce que l'aération aussi donne des fois, ça peut poser aussi des fois, tels que des problèmes de cardiopathie des enfants au niveau du poumon, c'est un peu ça, c'est ma préoccupation.
Ok, merci. Quel est l'endroit approprié pour construire une maison? Je disais tout à l'heure qu'il y a un principe en construction, on peut construire partout. Mais partout, on ne peut pas construire des maisons d'habitation. Le plan directeur des différentes villes prévoit des endroits propices pour construire des maisons d'habitation, pour construire des équipements socio-communautaires, ainsi de suite. Et généralement, les gens se prennent mal. C'est-à-dire qu'avec les lotissements en désordre, vous trouvez un endroit où l'État a laissé, sur recommandation du plan directeur de la ville, qu'à cet endroit, on ne peut pas construire des maisons d'habitation pour telle raison. Avec la cupidité et avec ce que nous connaissons au pays, bon, on finit par lotir et les gens, quoi qu'informés, quoi qu'ayant toutes les informations nécessaires, bon, en fait, ils s'empressent quand même à construire.
Construction en
arche, des occupations en arche, pour bien dire. Bon, là, c'est une zone, comme on appelle, de non-édificandis, mais vous trouvez que non, voilà, on est en train de lotir, c'est à moins cher. Ok, je m'en vais, je vais acheter pour construire. Même si vous prenez de cette façon-là, essayez quand même de recourir à des spécialistes qui vous disent que non, à cet endroit, si vous construisez, vous aurez des problèmes plus tard. À cet endroit, en fait, bien qu'on est en train de lotir par l'État, attention, il y a tel problème qui peut surgir. Mais généralement, on ne sait pas ces conseils-là et on est en pleine construction et plus tard, le problème commence à surgir. La deuxième préoccupation, parlons de la ventilation. Oui, lorsque la ventilation naturelle n'est pas mise dans un bâtiment, ça entraîne aussi le problème de l'humidité. La ventilation naturelle, c'est quoi? C'est la circulation de l'air dans une construction. Alors, cette air-là qui doit entrer par une passe, elle doit sortir par une autre passe. À tout moment, donc, vous avez l'air
donc, qui entre. Donc, il faut qu'il y ait la fenêtre et une porte en face.
En parallèle, il faut une porte, une fenêtre ou des fenêtres de part et d'autre. Comme ça, vous facilitez des claustras, par exemple. Vous facilitez la pénétration de l'air d'une part et cet air-là circule dans le bâtiment pour sortir de l'autre côté. Donc, vous avez cette ventilation permanente-là qui est recommandée et même exigée, surtout dans nos pays tropicaux, il plaît abondamment. Mais lorsque la construction ne résout pas le problème de ventilation, attendez-vous bien à des répercussions, c'est-à-dire que l'humidité, vous avez une humidité latente et n'est pas manifeste dans le mur, mais vous vivez avec une humidité, vous vivez dans des conditions qui ne sont pas confortables, vous vivez en deçà des degrés minimales de confort qui est exigé pour bien vivre dans un bâtiment. Alors là, vous avez aussi des problèmes qui vont se poser sur la santé publique.
Certaines personnes affirment que l'humidité attaque même les vêtements, les chaussures.
Oui, c'est visible. Vous pouvez aussi voir certaines moisissures. Si vous avez des chaussures qui sont placées quelque part à un endroit et que vous avez fait longtemps sans avoir recouvert ces chaussures-là, lorsque la région, plutôt la maison, est pleine d'humidité, vous allez découvrir une sorte de brouillard sur les chaussures. Vous allez voir des habits, voir des ouvrages même, qui vous ne savez pas faire passer parce que collé à cause de la présence de l'humidité. Donc l'humidité désagrège tout un environnement de vie et il y a de quoi faire face à ces problèmes-là et consulter les spécialistes pour pouvoir bien s'y prendre.
Et pour les enfants, ça peut causer quel type de maladies? Des maladies respiratoires?
Les maladies respiratoires, je sais que ça attaque tout le monde, les enfants tout comme les personnes âgées. Je ne suis pas médecin et par conséquent pas très bien placé pour déterminer les cas de maladies que l'humidité cause. Mais d'une façon générale, lorsqu'on ne vit pas dans un environnement décent, il y a des répercussions sur la santé.
Alors donc la solution, il faut refaire le bâtiment. Il faut s'il n'y a pas possibilité de refaire le bâtiment, il faut une peinture spéciale.
Bon, si la maison a la peinture, il faut une peinture spéciale. Si c'est par l'étanchéité au niveau de la toiture, il faut refaire l'étanchéité. Mais là, je précise que l'étanchéité exige un entretien permanent. Et surtout pour nos régions, l'étanchéité exige vraiment un entretien permanent, il plaît abondamment et à tout moment, si l'étanchéité est attaquée, donc il faut un entretien après 3 ou 4 ans pour revenir à ça. Mais la maison, lorsqu'elle est déjà construite et qu'on a échappé à ces souches d'étanchéité, il faut alors veiller à ce que même au niveau des parois extérieures, des crépissages, qu'on décape et qu'on repasse le crépissage, cette fois-là, avec des produits appropriés.
Prenons le cas des maisons où la tuyauterie est incrustée, elle est dans le mur, placée dans le mur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser?
Actuellement, les technologies modernes dans la construction évitent ça. Parce qu'on a remarqué avec l'expérience que même le PVC, que ce soit les galvanisés ou en plaistique, connaissent toujours aussi des casses dans le mur. Et il est difficile de savoir à quel endroit ça découpe et comment aussi commencer à détruire pour corriger. C'est ainsi qu'actuellement, il est difficile, il est rare de trouver des tuyauteries encastrées. On entre à l'endroit approprié où il faudra introduire l'eau dans le bâtiment et on fait un effort pour sortir à l'endroit juste pour aller vers le fossé septique le plus perdu. Et si, par l'état de force majeure, on ne sait pas entrer à un endroit précis et qu'il faudra casser tout de même le mur pour pouvoir atteindre les coins désirés, là il faut éviter qu'il n'y ait pas de jonction des tuyauteries dans le mur parce que généralement les fuites viennent à travers les jonctions, sur les points de jonction entre des PVC ou entre des tuyaux galvanisés.
Bien, merci Deschon Gadou, architecte, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup. Olivier.
Au café.